En jeu. Deuxième prise. Compte complet.
Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet, notre balado hebdomadaire sur ce qui se passe dans le monde du baseball. Alain Huzreau en compagnie de Marc Griffin. Marc, on va parler des Blue Jays de Toronto pour commencer parce qu'il y a une nouvelle qui a quand même fait jaser pas mal. Je pense qu'il a ravi aussi beaucoup de partisans des Blue Jays au Canada. C'est l'embauche de Joey Votto. Écoute, on va le dire, là, sur le plan marketing, là, ça aurait dû être fait avant, si tu veux mon avis, là. Mais c'est un bon coup là, pour les Jays.
Ben, écoute, effectivement, Alain, c'est pourquoi avoir attendu si longtemps s'il y avait de l'intérêt? Ça, c'est la première question. On a invité Vogelbach au camp d'entraînement. Moi, je me rappelle, lorsqu'on avait invité Vogelbach, je me suis dit, bon, est-ce que Votto, ça veut dire qu'il ne sera pas invité? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là? Peu importe, mieux vaut tard que jamais. Au niveau popularité, feuille de route exceptionnelle pour Joey Votto, mais bon, il a l'âge qu'il a, 40 ans. Est-ce qu'il peut encore, tu sais, produire au point où il peut devenir un joueur avec un impact intéressant pour l'équipe? C'est sûr, bon, rappelle-toi la semaine dernière ou il y a deux semaines, Alain, on s'était parlé, bon, il n'y a pas de place et pour J.D. Martinez et pour Justin Turner, il fallait faire un choix probablement. On a fait choix sur Justin Turner. Dans ce cas-ci, ça va être un peu la même chose. Tu le sais, Alain, je ne suis pas le plus grand partisan de Vogelbach. Il ne peut qu'être frappeur de choix, probablement contre des lanceurs droitiers seulement. Il ne peut pas jouer vraiment en défense. Alors, Votto, déjà, c'est mieux pour lui dans le sens qu'il peut jouer en défense, donc remplacer de temps à autre Vladimir Guerrero au premier coussin. Par contre, c'est ce que Justin Turner pouvait faire aussi. Alors, ça reste à voir. Première des choses, il va falloir que Votto démontre qu'il est capable encore de produire. Il arrive tard au camp d'entraînement. Donc, ce sera à voir pour lui au cours des prochains jours. Il s'est dit ouvert à jouer au niveau 3A. J'ai bien aimé son attitude, en fait, Alain, parce qu'il a vraiment mentionné, dit, écoutez, moi, je suis un joueur des ligues mineures, pas de problème, je vais me mettre en forme, prouver que je suis capable de jouer. Mais j'ai comme l'impression qu'il peut aider un peu cette équipe-là. Est-ce qu'il va faire une différence entre est-ce que les Jays vont faire les séries ou non? Là, je suis pas là. Mais est-ce qu'il peut être plus efficace qu'un Vogelbach? Selon moi, oui, mais ça reste à prouver parce que Vogelbach n'a quand même pas un mauvais camp d'entraînement.
Ben, c'est ça, moi, que je trouve drôle un peu. Comme tu dis, bon, c'est arrivé tardivement. Vogelbach a un bon camp. Donc, écoute, des frappeurs désignés, il y a une limite au nombre qu'on peut avoir. Au troisième but, il y a quelques options. Il y a Escobar, Canner, Falefa. Deuxième but, c'est pas encore réglé non plus. Bref, on va jongler avec tout ça. Mais la place, c'est ça. Au premier but, ça va être Vlad. À moins qu'on envisage le faire jouer à nouveau au troisième but, j'en doute beaucoup. C'est juste que je trouve que ça fait pas mal de frappeurs de choix au sein de la même équipe. J'ai l'impression qu'il y en a un, à un moment donné, qui va lever des feuilles. Là, ça. Et puis, les deux les plus vulnérables, écoute, si on veut donner de la place à Votto, peut-être pas en début de saison, mais éventuellement, ça va peut-être se décider entre Escobar et Vogelbach.
Écoute, moi, je pense pas qu'Escobar peut faire l'équipe. Là, je peux me tromper, évidemment. Moi, je pense que Connor Falefa va jouer la plupart du temps au troisième but, compte tenu de son jeu en défense. On sait l'importance. Bon, tu sais, Alain, les partants des Blue Jays sont solides. On a besoin d'une bonne défense, par contre. Bichette s'est amélioré à l'arrêt court l'année dernière. Rien qui nous laisse croire que ça ne peut pas être encore le cas cette année, qu'il soit même encore un peu meilleur. Alors, est-ce que Connor Falefa est comme Chapman? Non, mais ça reste quand même un joueur de troisième but qui est très honnête en défense. Et au deuxième coussin, bon, et présentement, là, si je regarde, c'est Schneider qui a joué le plus souvent à cette position-là. Ça reste que, bon, Bijou revient, je sais qu'il a été, il avait une blessure, son temps de jeu a été retardé là, à l'entraînement, ça reste qu'il est une possibilité à ce niveau-là. Mais écoute, dans le cas de, bon, comme j'ai mentionné, dans le cas de Vogelbach, pour moi, c'est le gars qui, même s'il a un bon camp d'entraînement, moi, j'opte pour un gars comme Joey Votto. Encore une fois, je me répète, mais il faut qu'il produise, là, pour qu'il produise rapidement, qu'il prouve rapidement qu'il est capable. Il a quand même frappé 14 circuits l'année dernière, dans un temps limité. Mm-hmm. Sa moyenne au bâton n'était pas très élevée, j'en conviens. Il se dit plus en santé, mais ça reste que lorsqu'il va voir ce qu'on appelle du live pitching, donc des lanceurs du baseball majeur, si on est capable de l'insérer dans quelques matchs d'ici la fin du camp d'entraînement, ben là, on pourra déjà voir une petite idée par où ça se dessine. Mais je dirais ceci, par contre. On voit déjà l'impact de Turner à l'intérieur de l'équipe, à savoir bon son leadership, son professionnalisme. Ça, je trouve ça très intéressant. Tu ajoutes un Joey Votto à tout ça, une joie de vivre qui peut mettre tout le monde très, très... Est-ce qu'on a l'expression, c'est lousse, là, très détendu à l'intérieur. Alors ça, c'est des signes fort intéressants. Et est-ce qu'on peut aussi aider la cause avec ces deux vétérans-là éventuellement, là, d'aider l'équipe, Alain, à mieux frapper avec des coureurs en position de marquer? Parce que ça a été le gros problème des Jays l'année dernière. Et si des vétérans comme ça peuvent aider des jeunes... Et là, ce que je dis aider, là, c'est à mieux se préparer, à arriver avec peut-être un plan plus précis ou en tout cas, peu importe, mais d'aider les jeunes frappeurs à se concentrer, davantage, peu importe, mais surtout de produire avec des coureurs en position de marquer. Si c'est le cas, ça va vraiment aider la cause des Blue Jays de Toronto.
Oui, parce que le seul qui a vraiment produit l'an passé, je sais qu'on a tapé dessus, Marc, mais c'est Vlad Guerrero. De loin, il a été celui au bâton qui a augmenté le plus la probabilité de gagner de son équipe. C'est statistique, mais c'est quand même celui qui a dépassé tout le monde par une tête, là, malgré le fait que ses chiffres n'aient pas été au même niveau qu'attendu.
Exact. Alors là, si d'autres peuvent produire avec des coureurs en position de marquer, bien là, ça va devenir... On va enlever un peu cette pression-là à Vlad et peut-être que ça peut débloquer. Parce que, tu sais, Alain, je veux pas... Je ne veux pas être inquiet là, vis-à-vis des partisans des Blue Jays, mais l'année dernière, les partants, on sait à quel point ils ont été solides. C'est 4 partants d'une trentaine de départs l'année dernière qui ont été très, très bons. Est-ce qu'on peut répéter? Est-ce qu'on peut être aussi bon au monticule cette année et penser que l'attaque va produire davantage, même si on n'est pas allé chercher un Cody Bellinger, par exemple? Il y a quand même beaucoup de scie à l'intérieur des Blue Jays de Toronto à ce niveau-là. Sur papier, c'est fort intéressant. Est-ce que là, il va falloir évidemment le faire sur le terrain?
Oui. Écoute, à l'attaque, tu as soulevé le point. On a produit au-dessus de la moyenne. Là. Quand tu regardes l'ensemble de la production, c'est juste dans des moments clés qu'on n'a pas été capable de le faire. Au monticule, on a été plus que bon. Marc, la moyenne de points mérités plus, on parle souvent du MPP plus, mais ça existe aussi pour la moyenne de points mérités. Puis on a été parmi les meilleurs dans le baseball majeur l'année passée. Puis c'est fragile les lanceurs. Puis là, il y en a deux. Manoa, cinquième partant, tu es capable de te débrouiller. Mais puis je sais que tu aimes beaucoup Francis là, qui a démontré de belles choses. Ça pourrait être une option comme le cinquième partant. Gossman, c'est inquiétant, Marc. Il est passé la trentaine. C'est un gars qui lance fort. La fameuse balle front est terriblement exigeante pour le bras. Moi, je. Attention un petit peu de ce côté-là. Puis comme tu le mentionnes, tu sais, les Yankees pourraient t'en parler, là, des points d'interrogation, il y en a chaque année chez des lanceurs partants en raison de ce que je pourrais parler là, de l'épidémie là, des lanceurs qui reçoivent l'opération Tommy John.
Oui, puis on pourrait parler aussi des problèmes à l'épaule. Hein? Ça aussi, ça devient là, vraiment important à travers le baseball. Ouais, écoute, tu sais, c'est ça. Il fallait s'attendre à ça, Alain, parce que tu regardes depuis 5, 6, 7, 8 ans à quel point la vélocité a augmenté. Alors, c'est sûr que les chiffres de blessures allaient aussi augmenter, c'est clair. Bon, mais par contre, c'est vrai que dans le cas de Gossman, il reste un peu de temps, mais pas convaincu qu'il en reste assez pour que Gossman soit là dès le départ. Est-ce qu'on va lui donner le poste de cinquième partant, là, je dis ça entre guillemets, parce que ça lui donnerait quelques jours de plus pour s'entraîner et permettre d'être prêt pour la saison. Ça reste à voir. Mais tu ne veux pas commencer l'année avec des problèmes à l'épaule pour deux de tes lanceurs partants. Alors, c'est pour ça que Francis devient vraiment pour moi un gars important, surtout en début de saison, pour rassurer un peu tout le monde et permettre justement à Gausman d'avoir le temps nécessaire peut-être de revenir au jeu.
Oui, Berrios, Bassett vont bien. Kikuchi, on verra. Le temps qu'il retrouve complètement le contrôle de sa balle rapide et tout ça. Ce qui m'amène, Marc, à la question de la semaine, qui est une présentation de Sylmar Autoville, votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Vous pouvez aller sur le site internet www.sylmar.ca. La question touche Joey Votto. Puis, même si c'est pas fait d'équipe, je pense que c'est pertinent de le demander. Est-ce qu'il peut produire suffisamment pour avoir un impact chez les Jays? Quand on parle de produits, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses. On en a parlé tantôt. On vous invite à envoyer vos commentaires à propos de cette question. Ça paraît sur facebook.com, en fait. / compte complet, balado, tout ça en un seul mot.
Alors, on vous invite aussi, Alain, à aller sur notre site internet www.comptecomplet.com. C'est à cet endroit qu'on va retrouver évidemment tous les accès pour nous écouter ou nous regarder. Et en même temps, Alain, j'en profite pour remercier Plan de Match, notre commanditaire principal, les cages de frappeurs et boutiques à Boucherville.
Bon, Marc, malheureusement, on a eu une nouvelle qu'on n'aime jamais entendre. Un des bons prospects du baseball majeur, Noël V. Marté, qui va rater au moins la moitié de la saison. Suspension de 80 matchs pour utilisation de produits interdits. On aimerait que ce soit à zéro, Marc. La tentation d'utiliser ces produits, malheureusement, dans certains cas, on sent, je ne sais pas, Marc, est-ce qu'on a été mal conseillé, puis tout ça, puis il faut bien le dire aussi, puis il y a beaucoup de joueurs latino-américains qui ont recours à ces produits-là, que ce soit par nécessité. Il faut comprendre que dans certains cas, on veut se sortir de situations familiales qui ne sont pas faciles et qu'on veut aider tout le monde en même temps. Bref, il y a une sensibilisation encore à faire, je pense, Marc. Ils sont envers tout le monde.
Tu fais bien de le mentionner. Par contre, là, on parle ici d'un prospect de premier plan qui avait une chance de faire l'équipe au troisième but chez les Reds. C'est très décevant. T'sais, je dis pas que ça excuse le gars qui commence ou qui est un petit peu plus bas dans les rangs mineurs puis qui essaie de faire sa place. Là, ça excuse rien. Puis je pense qu'il faut que le joueur prenne sa responsabilité. Tu sais, tu as parlé, est-ce que le joueur est bien conseillé? Écoute, je pense que là, si tu n'es pas au courant maintenant, là, tu sais, je veux dire, il faut que le joueur se responsabilise. Moi, j'en suis convaincu. Alors, c'est pour ça que, évidemment, les Reds ne sont pas contents parce qu'on comptait sur lui, on comptait probablement sur lui cette année, une belle jeune équipe, celle des Reds de Cincinnati. Mais comme tu l'as dit, malheureusement, on n'est pas à zéro dans ce cas-ci. Ça prouve qu'il y a encore du travail à faire à bien des égards. Probablement aussi en termes d'éducation, mais je pense que les équipes en font beaucoup, Alain. C'est pour ça que je parle de responsabilité de joueur à ce niveau-là. Ça met une tâche. Moi, je me souviendrai toujours, ma première année avec les Dodgers, on avait eu une rencontre importante et les gens disaient, vous savez, on ne représente pas votre petite personne. Là. C'est que si vous avez un problème ou vous tombez dans le trouble, c'est pas le joueur en question, c'est le sport, c'est l'organisation. Alors, à l'époque, on me disait, ça ne sera pas Mark Griffin a été, arrêté pour justement, suspendu pour avoir pris des produits dopants. Ça va être écrit « Un joueur de l'organisation des Dodgers de Los Angeles du baseball majeur ». L'article va commencer comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça prouve à quel point c'est important de bien représenter une organisation. Et lorsqu'on arrive puis qu'on se met dans le trouble de la sorte, mais c'est tout le monde qui est affecté. C'est le sport en général. On va dire encore le baseball qui n'est pas encore tout à fait propre. Puis les Reds, est-ce que les Reds font comme il faut? Tu sais, tout le monde met en doute. C'est pour ça que c'est important lorsqu'on porte un uniforme du baseball majeur, ça vient avec des responsabilités. Puis ces responsabilités-là, c'est de connaître les règles, puis c'est de savoir qu'il ne faut pas se mettre dans le trouble, parce que là, ça fait paraître toute l'industrie, encore une fois, qui n'est pas parfaite.
Oui. Si on parle de la situation des Reds relativement à cette suspension, je regardais la formation, on n'est pas dans le trouble tant que ça, Marc. Ça va peut-être changer des plans. Tu sais, on a embauché quand même Candelario. Puis Candelario, qu'on envisageait peut-être de faire jouer au premier but comme frappeur de choix, mais va peut-être se retrouver à sa position où il a évolué pour l'ensemble de sa carrière, avec les Tigers l'année passée, Washington, avec les Cubs aussi. Je pense que Candelario va se retrouver au troisième but. On va avoir de la Cruz à l'arrêt court. Il y a McLean aussi qui est là. Jonathan India. On a de la profondeur chez les Reds de Cincinnati, je pense, pour combler. Je pense que si on peut parler des Reds là, de façon précise, Marc, ce qu'on se demande, est-ce que les jeunes lanceurs vont être capables d'être en santé pour tirer cette équipe-là?
Effectivement. Juste pour revenir, Candelario, vient solidifier, évidemment, ce poste de troisième but-là. Mm-hmm. Alors que Marté pouvait peut-être lutter. Dans le fond, Marté, c'est lui le pire dans cette situation-là, parce que si les autres jeunes qu'on fait jouer davantage en raison de son absence prennent sa place pour de bon, c'est lui qui va en payer le prix. Mais oui, les Reds, en fait, toute la division, ça va être pas mal le fun. On en a déjà parlé, cette centrale de la Nationale, une division qui va être fort agréable à suivre, surtout, évidemment, avec ces Reds-là. Il y a des bras chez les Reds, mais est-ce qu'on peut tenir le coup? Ça, c'est la grande, grande question. Moi, j'aime le côté très athlétique, justement, des joueurs dont tu as fait mention. D'ailleurs, la tendance du baseball s'en va là. Alain, tu regardes là, les choix de première ronde, les jeunes qui se présentent au camp d'entraînement, peu importe, là, on parle des Reds, mais tu regardes partout ailleurs dans le baseball. Le baseball s'en vient vraiment de plus en plus jeune, mais de plus en plus athlétique. Tu sais, des joueurs d'une dimension unique, là, de frappeurs de puissance seulement, là, je parle de jeunes, là, on n'en voit plus. Là. C'est vraiment là, des joueurs qui ont trois ou quatre atouts importants là, qui se présentent. Puis ça, là, c'est parfait pour les partisans, parce que on va avoir des jeux spectaculaires, on va avoir des gars qui bougent bien. C'est pour ça que frapper des balles au sol là, en 2024, là, faut que tu frappes d'aplomb pour qu'elle perce l'avant-champ, parce qu'on a quatre joueurs très, très athlétiques dans la plupart des cas chez les équipes. Alors ça, c'est, je trouve que c'est fort agréable pour le baseball.
Bon, Marc, on parle de joueurs qui vont peut-être changer de position, incarnation. Je vais t'en parler d'un, moi, Mookie Betts. On a dit, il s'en va à l'arrêt court. Et Dave Roberts a dit, c'est permanent. Jusqu'à nouvel ordre. Façon de dire les choses. Puis, dans le fond, est-ce que ça marque pas un manque de profondeur chez les Dodgers de Los Angeles? Moi, je me demande si c'est pas ça. Moi, c'est ce que j'ai vu quand j'ai vu cette décision-là. J'ai dit, coudon, parce que Matt est parti du champ droit pour aller au deuxième but et par la suite à l'arrêt court. Je sais pas là, mais me semble que si on avait un minimum de profondeur, c'est pas à l'arrêt court que Betts serait. Là.
Non, c'est pas le plan A, mais pour avoir vu plusieurs matchs des Dodgers depuis le début de l'entraînement, Gavin Lux semble complètement perdu. C'est relais au premier coussin. Freddie Freeman fait un travail exceptionnel pour le faire paraître correct, je veux dire ça ici. Tu voyais qu'il y avait un problème. D'ailleurs, Lux a été blessé au genou, là, pas au bras, mais écoute, il y a quelque chose qui se passe. Et les Dodgers ont dit non, ça se peut pas, on peut pas garder ça ainsi. Lux a été très bon au deuxième au cours des dernières années lorsqu'on l'insérait à cette position-là. Et là, on demande, tu sais, on parlait de joueurs très athlétiques, un gars qui excelle dans tous les sports, d'aller à l'arrêt court. Je le sais, Alain, que c'est pas Francisco Lindor, ce n'est pas... peu importe le Carlos Correa ou nommer tous les joueurs d'arrêt court là, qui excellent dans le baseball. Mais honnêtement, je pense que Mookie Betts va faire un travail très honnête. Est-ce qu'il va gagner le gant d'or à l'arrêt court? Non. Mais ce gars-là, c'est un gars qui peut s'adapter à n'importe quelle situation. Il va faire un travail, selon moi, très honnête. Est-ce que les Dodgers, en ce moment, le téléphone sonne ailleurs? Probablement, parce qu'on va commencer l'année. Si ça va bien, tant mieux. Mais connaissant les Dodgers, il va falloir aller chercher un petit peu d'aide à ce niveau-là. J'en suis convaincu. Mm-hmm. Mais je suis aussi pas mal convaincu que Betts va faire un travail qui va être assez honnête pour dire « Hey, un instant, peut-être qu'on peut faire l'année avec ça. » Parce que de toute évidence, Lux va être pas mal meilleur au deuxième, selon moi. Un peu à la Gleyber Torres. Hein? Rappelle-toi, lorsque Torres était à l'arrêt court, on l'aimait pas mal mieux au deuxième. Moi, dans le cas de Lux... je suis pas sûr que je le voyais à la réco. Je voyais pas Betts non plus, tu vas me dire, mais je trouve que son côté, encore une fois, très, très athlétique, va faire en sorte qu'on va se tirer d'affaires chez les Dodgers.
Bon, Marc, un mot sur Trevor Bauer. Il a lancé contre les joueurs des ligues mineures des Dodgers de Los Angeles, pas accordé de points. Se dit disponible. Et là, sa situation, sa suspension est terminée. Ses problèmes légaux sont terminés. Finalement, il n'a pas été rendu coupable de quoi que ce soit, malgré toute la controverse qui a entouré ses relations avec les femmes. Est-ce que, dans le fond, c'est sûr qu'il peut aider une équipe. Moi, je regarde ses chiffres au Japon. Lui se dit un meilleur lanceur qu'il l'était lorsqu'il a été libéré par les Dodgers. Est-ce qu'il mérite une autre chance? Dans le fond, la question, là, ça revient à ça. Est-ce qu'il mérite une autre chance? Il a payé le prix. Lui, il l'a dit, je l'ai payé en double. Bon, on peut débattre de ça. Puis, comme il a dit, sur le plan criminel, il a été blanchi. Tu sais, dans la société, on aime donner une deuxième chance. Je sais que c'est un individu qui est un peu spécial, qui est polarisant, mais on est à la recherche de bras. T'en penses quoi, Marc? T'as été dans le vestiaire d'un joueur. Là. Est-ce que tu veux voir arriver Trevor Bauer dans ton équipe?
Écoute, la question est très pertinente, puis je vais répondre ainsi parce que en lisant plusieurs articles à ce sujet, la plupart, je dirais pas tous, mais la plupart des joueurs disent « Ben oui, faut le ramener, là. Il a payé le prix. » Moi, je suis pour une deuxième chance, effectivement, même s'il n'a pas été... on va dire qu'il n'a jamais fumé sans feu, mais ça reste que je pense qu'effectivement, il a payé le prix. Moi, je lui donnerais une deuxième chance. Surtout qu'il a même mentionné, Alain, qu'il irait pour le salaire minimum et qu'il prouverait à nouveau qu'il est capable de lancer. Mais de toute évidence, on hésite. Et là, est-ce que ça vient d'en haut? Est-ce que ça vient du commissaire? Ça, c'est selon moi, c'est difficile à dire. Mais ça reste que ça me surprend qu'aucune équipe encore a tenté sa chance, compte tenu des commentaires de la plupart des joueurs que j'ai entendus disant que c'est correct, qu'il n'y a pas de problème, il pourrait poursuivre. Donc, en sachant tout ça, où tout le monde semble à l'aise au niveau des joueurs, ou à la plupart, comme j'ai mentionné, moi, je me dirais, je lui donnerais une deuxième chance. Ça reste à voir, mais il a lancé des balles, a fait trois tirs à 100 000 à l'heure à sa sortie contre les joueurs des ligues mineures des Dodgers. Il a été dominant au monticule. Il pourrait aider une équipe, sans aucun doute.
Oui. Pas sûr, moi, qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui cognera pas à sa porte pour lui demander « Écoute, ça tenterait-tu de nous aider? Là? Peut-être qu'on aura besoin de quelqu'un pour se rendre en série. » C'est peut-être là que la pression va se faire voir. Marc, la semaine passée, le 8 mars, comme à toutes les années, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Et on va rendre hommage aujourd'hui à Dorothy Dottie Kamenchek dans le cadre de notre segment sur la carte de baseball de la semaine, qui est une présentation The Card, trait-d'union-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 14 000 items en vente sur eBay. Qui est Dorothy Kamenchek? Ben, écoute, c'est une joueuse qui a brillé dans la All-American Girls Professional Baseball League. Il y a des cartes qui ont été produites avec les joueuses qui ont joué dans cette ligue, produites par Fritch. Et c'est la carte numéro 416. C'est un ensemble qui a été mis à jour en 2002. Donc, c'était une des vedettes. D'ailleurs, si vous vous rappelez du film, Gina Davis était une des vedettes. Son personnage était tiré un petit peu de Dorothy Kamenchek. Et c'est une ligue, ça marque, qui a pris naissance durant la Deuxième Guerre mondiale. On voulait du divertissement pour les partisans. Il y a beaucoup, évidemment, d'Américains d'âge adulte qui étaient partis, dont de nombreux joueurs de baseball. Le baseball majeur a continué, mais on voulait ajouter du divertissement. Donc, on a parti cette ligue-là en 1943. Ça a duré une dizaine d'années et ça a inspiré le fameux film The League of Their Own ou La Ligue en jupon, mettant en vedette notamment Tom Hanks, Gina Davis et quelques autres. Donc, il y a une série d'ailleurs du même nom, The League of Their Own, en 2022, là, qui est apparue sur Prime TV. Donc, il y a trois séries de cette carte de cette ligue-là, qui a été produite, trois séries de 1995 à 2002. Marc, le baseball qui est de plus en plus populaire chez les filles, il faut quand même le préciser.
Extrêmement populaire, surtout au Québec, là, on va se le dire. Au Canada, certainement, mais c'est vraiment le Québec. Et d'ailleurs, il y a une académie de baseball, l'ABC féminin, située à Trois-Rivières. Les filles font un travail remarquable. On vient d'ailleurs de souligner le troisième anniversaire déjà de cette académie. Alors, le baseball féminin en pleine progression présentement, ici au Canada, aux États-Unis. Alors, ça, c'est extraordinaire. Ils sont vraiment, mais vraiment très bonnes, les filles.
Marc, on va continuer avec le segment sur les femmes parce que la semaine dernière, sur le site de RDS notamment, il y a eu un très bel article sur Tania Miyati qui, c'est une ancienne policière qui a décidé de laisser son uniforme pour en troquer un autre, celui d'arbitre professionnel. C'est une belle histoire. En fait, elle a décidé de suivre sa passion. Puis je te laisse relater un petit peu son histoire à elle, parce que c'est un retour à ce qu'elle voulait faire à l'origine.
Oui, écoute, je pense que c'est une histoire de famille avec le père. Ça a commencé même au hockey et par la suite au baseball. Je pense que rapidement, on a vu à quel point elle avait du caractère, surtout lorsqu'elle était arbitre au hockey. Et lorsqu'elle elle est passée au baseball, bien, ça s'est poursuivi. Beaucoup de succès dans son cas. Par contre, elle avait aussi un emploi, celui de policière. Et à un moment donné, je pense qu'elle... C'était pas nécessairement autant... Je ne sais pas si c'était autant palpitant qu'elle le pensait, mais toujours est-il qu'à un moment donné... les lignes, en fait, tout s'est aligné pour qu'elle puisse se retrouver à une école spécialisée Wendelstedt, l'école des officiels. Et là, évidemment, elle a été remarquée à plusieurs reprises. Et finalement, c'est sûr que rapidement, elle s'est démarquée, s'est retrouvée arbitrée un peu partout aux États-Unis. On sait qu'il y a eu la pandémie et tout ça. Mais aujourd'hui, elle va se retrouver. Bientôt, en fait, elle va quitter là, pour les États-Unis pour aller arbitrer les ligues mineures professionnelles. Alors ça, c'est extraordinaire. Ce n'est pas facile, elle le sait, pour avoir joué dans les ligues mineures et connu des arbitres qui ont passé 7, 8, 10 ans dans les ligues mineures, parce que c'est à peu près le minimum avant d'atteindre le baseball majeur. Il n'y a pas un très haut pourcentage de se rendre dans le baseball majeur, mais elle y croit. Elle a l'attitude pour, je trouve ça, c'est une histoire fantastique. On parlait du baseball féminin, mais au niveau de l'arbitrage, c'est d'autant plus extraordinaire. Et bravo, on va suivre évidemment l'évolution de tout ça. Ce serait donc sa première année cette année qu'elle va amorcer dans le baseball mineur professionnel. Et là, par la suite, on sait que les arbitres sont évalués, sont suivis. Alors, on va suivre son parcours, mais... vraiment une très, très, très belle histoire.
Oui, puis écoute, sa cote était bonne, Marc, parce qu'elle avait déjà une première fois fait une école, l'école Wendelstedt en Floride. Et là, il y avait une décision à prendre, son emploi. Bon, elle était en couple à ce moment-là. Elle avait décidé de revenir au Canada, au Québec, en fait. Puis plus tard, bien des choses ont changé. Et quand elle a fait savoir qu'elle était prête à revenir, on l'a pris tout de suite. Donc, ça veut dire qu'elle avait créé une très, très bonne impression lors de son premier séjour en Floride.
En fait, je pense que les officiels, la première fois qu'elle a décidé de retourner au Québec, on était très, très déçus. Et effectivement, lorsqu'elle elle les a appelés pour dire « Écoutez, là, j'aimerais revenir », on l'a accueillie à bras ouverts. On lui a même fait sauter des étapes parce qu'on savait qu'elle était excellente. Alors, effectivement, la première impression a dû être... très, 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 très bonne à ce niveau-là. Bravo, bravo, parce que, je vous le dis, si vous pensez que les joueurs des ligues mineures, ce n'est pas facile, je pense que les arbitres, c'est encore pire, Alain, parce que les arbitres n'ont pas de domicile. Tu sais, un calendrier là, de baseball, là, c'est que la moitié des matchs, tu joues à domicile. Donc, tu es chez vous, tu peux relaxer. Les officiels sont... constamment sur la route, ils sont jamais chez eux. Alors, on vit dans les voitures, dans les hôtels, puis c'est pas des 4 étoiles. Alors, c'est c'est pas une vie facile, mais si on est passionné, ça peut être tout à fait extraordinaire.
Oui, puis si tu me permets, Marc, je vais aussi souligner le travail de quelques pionnières qui sont passées avant Tania au Québec, principalement Nathalie Vigeant, qui a été la première à faire du Média 3A, qui a eu à travailler avec Tania Miyati. Et les deux ont beaucoup en commun, notamment Nathalie, qui est retraitée maintenant, qui était policière, et Élise Lallement, que tu as peut-être connue, Marc, qui a été la première à arbitrer aux juniors élites au Québec. Donc, je pense que ces deux-là méritent aussi un coup de chapeau là, d'avoir tracé la voie un petit peu là, à Tania Miyati, à qui on souhaite la meilleure des chances. Puisqu'on parle de Québec, on va continuer. Édouard Julien, J'ai eu une petite frousse cette semaine, Marc. Il était atteint par un tir. On l'a retiré tout de suite du match. Sauf que pas de dommage. Il a pris son exercice au bâton. Il n'y avait pas de protecteur. Il connaît un excellent camp. En échangeant Polanco, on lui a dit « c'est à toi le deuxième but ». Puis regarde, il donne absolument raison aux Twins. Là. C'est à lui. Là.
Ben, écoute, c'est vraiment... Il est arrivé préparé. Moi, ce que j'ai trouvé fantastique dans le cas d'Edouard, c'est qu'on lui a proposé durant l'hiver d'aller s'entraîner, de lui trouver des endroits pour s'entraîner. Il a dit non, moi je m'en vais à Québec, je m'en vais chez nous, je suis parfaitement entouré. Plusieurs des entraîneurs des canonniers de Québec et le Sport Études ont pris en main aussi l'entre-saison, le travail d'entre-saison d'Edouard Julien, et il est arrivé parfaitement prêt. Donc, bravo. Tu sais, Edouard, il y a beaucoup de monde là, qui navigue autour d'Edouard pour sa préparation, et c'est tous des gens du Québec, et de Québec, en fait. Donc, félicitations à ces gens-là. Et là, Edouard est arrivé, donc, fin prêt. On l'a vu. Tu sais, Alain, je veux pas mettre de pression sur Edouard Julien, là, pas du tout, mais je pense que ce gars-là peut connaître une très, très belle carrière, juste par son attitude, bien évidemment son grand talent, mais tu regardes c'est son œil au bâton, sa discipline, il va développer plus de puissance que les gens pensent. C'est pas un frappeur de puissance, mais il va en frapper quand même plusieurs parce que c'est pas ça qu'il recherche. Il va être très, très bon. Je le regarde aller encore une fois au camp d'entraînement. Qualité de ses présences au bâton, s'élance très, très, très rarement sur des tirs qui sont hors de la zone des prises. Il va avoir sa part de retrait sur les prises, là. Mais je trouve qu'il a des atouts qui permettent de croire que ce gars-là, tu sais, c'est pas juste un bon frappeur. C'est comme j'ai mentionné, sa discipline, son œil, tout ça combiné font en sorte que j'ai bien l'impression qu'il va connaître beaucoup de succès. Je sais que ce sera sa deuxième année, la gang de la deuxième année, mais moi, j'y crois pas. Dans le style d'Edouard Julien, j'ai l'impression qu'il pourrait vraiment encore nous surprendre.
Sa faculté d'adaptation, Marc, j'ai l'impression là, qu'il pourrait jouer en sa faveur.
Exact, exact. Écoute, il a frappé partout où il est passé et le baseball majeur ne fait pas exception. Il a forcé l'organisation l'année dernière, il a été retourné à deux reprises dans les ligues mineures et à chaque fois qu'il revenait, faisait bonne impression. Peut-être tu as parlé de l'échange de Polanco. En tout cas, moi, les Twins le voient... Et certainement, en tout cas, leur gérant le voit dans le haut de la formation, le voit comme un rouage important de cette attaque des Twins du Minnesota. Il prouve à nouveau qu'à l'entraînement, je vous dis, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce que je vois d'Edouard Julien.
On le voit gros chez les Twins, comme tu viens de le mentionner, la preuve Polanco. On peut même aller plus loin, Marc. L'échange d'Araes, là, c'est peut-être pas étranger à ce qu'on voyait à Edouard Julien.
Écoute, effectivement, tout s'enlignait pour qu'on laisse une place à Edouard à ce niveau-là. Puis il l'a pris. Tu sais, combien de fois on donne une chance à un joueur de dire « OK, vas-y, là, on donne un 5, 10, 12 matchs, là, puis donne-nous ce que tu es capable de donner. » Puis là, ben, c'est plus difficile. Puis c'est pas évident, là. 5, 10, 12 matchs pour un joueur de baseball, c'est très, très, très peu. Mais Edouard, immédiatement, a fait bonne impression et... C'est pour ça que tous ces éléments-là mis ensemble me permettent de croire qu'il va avoir pas mal de succès cette année. On va en entendre parler beaucoup. Et soit dit en passant, a travaillé très, très fort en défense. Il le sait là, que les gens disent « Ouais, mais est-ce qu'il va être capable de jouer régulièrement comme joueur de deuxième but? » Peut-être qu'il ne gagnera pas de gants d'or, Alain, mais l'effort qu'il met présentement pour s'améliorer est exceptionnel.
Ouais. Un autre Québécois, Marc Abraham Taureau, les Aces lui donnent toutes les chances au monde là, même de se tailler un poste régulier. Et peut dire que ça va bien là, pour Abraham.
Oui, mais surtout récemment, ça va très bien. C'est sûr que je dirais pas qu'on était à la croisée des chemins pour Abraham, mais il se doit de faire l'équipe. T'sais, il faut qu'il prouve qu'il est capable de jouer dans le baseball majeur. C'est une très, très belle occasion pour lui. Moi, j'y crois. Et une fois qu'il aura sa place, bien, à lui de la garder maintenant toute la saison. Les A's, on le sait, vont offrir la chance à des jeunes joueurs. C'est pas une équipe qui va gagner le titre de la division cette année, loin de là, mais on peut quand même évidemment jouer de la très bonne balle Belle opportunité là, pour finalement qu'Abraham s'installe pour de bon dans le baseball majeur. Et son camp d'entraînement, lui aussi, est très solide à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas demander mieux pour Abraham. Moins de chance pour Charles Leblanc, qui a été retourné, mais c'était un gars qui avait été invité au camp des ligues majeures. On lui avait signé un contrat des ligues mineures. Charles qui s'en va maintenant tenter de se tailler un poste au niveau 3A. Mais lorsque vous êtes au niveau 3A, chez les Angels, tout peut arriver. Ouais. On n'est pas loin, là. Donc, on espère que Charles pourra aussi revoir du temps de jeu dans le baseball majeur. Soit dit en passant, il avait connu beaucoup de succès avec les Marlins dans son passage dans le baseball majeur.
Oui, et Otto Lopez avec les Giants, toujours au camp. Marc, il y a beaucoup de jeunes au camp d'entraînement, quelques ouvertures. Il a connu quand même, il n'a pas joué beaucoup, mais quand il a joué dans la Ligue d'hiver dominicaine, ça s'est bien passé pour lui. Donc, je ne sais pas quels sont les plans, mais il est sur la liste des 40 joueurs des Giants. Donc, je pense qu'on va le voir cette année. Est-ce que ce sera en début de saison? Mais là, je pense que ce sera à suivre là, dans son cas.
Oui, bien, en tout cas, comme je l'ai mentionné, Alain, lorsqu'on est au niveau 2A, 3A, surtout les gars qui commencent à avoir un peu d'expérience, on n'est vraiment pas loin, là.
Oui. Mais voilà ce qui complète ce balado. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Il y a des choses qui vont se préciser, assurément, dans les différents camps d'entraînement. Bonne semaine, tout le monde.
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.